Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie comme chaque semaine, de Mélina Lopez-Nadeau et de François Genet. Bonjour.
Bonjour.
Et cette semaine, comme on a l'habitude de le faire occasionnellement, à peu près une fois par mois, quand il n'y a pas de radio don.
c'est
plein d'allitérations, mon affaire. Oui. On accueille donc Julie Desmarais qui vient nous parler. Bonjour Julie.
Bonjour.
De la continuation de son bloc musical sur les super-héros. Cette fois-ci, on va passer de Marvel à DC et se diriger vers l'univers de Batman. Tout ça en deuxième demi-heure de l'émission. Ben, je sais, j'ai révélé les choses. Moi, je suis comme ça. Je révèle tout dès le début. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. Donc, voilà, vous écoutez donc Cinébrunch, votre magazine de cinéma qui s'assume. Et c'est aujourd'hui, le 1er juin.
C'était en juin, le mois où le ciel s'illumine.
Et oui, c'est ça. Mais il y a toujours des moments où on peut passer un peu de Georges Moustaki, comme oui, aujourd'hui, 1er Exactement. Juin. Donc, si vous écoutez en rediffusion le mardi, évidemment, vous êtes complètement à côté de la traque. Voilà, donc, c'est ça. Hein, c'est ça. Aujourd'hui, on va critiquer pour vous quelques films, en plus de parler de musique de films de super-héros. On va critiquer pour vous notamment le... Dites donc, c'est quoi vos films, en fait?
Tout ce qu'il me reste de la Révolution. Voilà. Tout à fait. C'était pas simple.
Comédie française.
Oui, exactement.
Oui.
Moi, c'est le film Booksmart. Ça, c'est le titre en anglais.
Ah, en français,
on l'avait pas remarqué.
En français, c'est...
Première de classe, je crois.
Ah oui. Oui, c'est différent. OK. Excellent. Et de mon côté, je vais critiquer pour vous le film une autre comédie française. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, on vous parle de ça un peu plus tard. Mais avant toute chose, François.
Oui, tout à fait. Nouvelle, on va commencer ça avec une nouvelle un peu triste. En fait, c'est un père qui a été arrêté dans une salle de cinéma, en train de frapper sa fille de 7 ans. Tout à fait. Oui, ça se passe au Cinéplex Odéon de Sainte-Foy.
Ah, au Québec, en
fait. Au Québec.
Ah oui, en plus. Pas en Californie. Oui.
Non, exactement. Texas, non? Et c'était pendant le film Détective Pikachu.
T'es pas sérieux?
Non, je te dis.
T'es pas sérieux.
Exactement. Et là, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais là, il y a des spectateurs qui auraient vu l'homme frapper de façon excessive, mais en même temps... de frapper, déjà, peu importe que ce soit excessif ou pas.
Rendu là,
tu frappes quelqu'un dans un cinéma, relax, là, tu sais, c'est un film. Mais c'est ça, puis là, ils ont appelé le 911, puis là, les policiers sont arrivés, puis là, ils sont mis à regarder les témoins.
Ils ont arrêté la projection,
puis là, ils ont fait une enquête, puis après ça, ils ont arrêté le dit homme, et voilà, ils sont partis avec. Et c'est un peu spécial, mais moi, c'est quand même triste, mais en même temps, je me dis peut-être qu'il y a des gens perdus dans la salle qui n'avaient pas vu la personne frapper sa fille, tu sais, puis qui se demandait vraiment ce qui se passait.
Pourquoi la police arrivait, puis tout ça.
Ouais, mais ça, t'es comme détective Pikachu, man. Ah. C'est vraiment rendu genre.
Immersif.
C'est vraiment immersif pour vrai. Genre, le prix du billet a peut-être augmenté, mais Colin, on a quelque chose de vrai. Des doutes qui prennent des témoins, puis qui regardent, qui prennent en note des trucs. C'est vraiment épique pour vrai. Eux autres, ils ont dû être vraiment flabbergastés.
C'est troublant tout ça, donc une projection électrisante, en espérant que la jeune fille s'en sorte.
Oui, tout à fait, elle a été remise à sa mère qui était aussi à la projection.
Ah bon?
Oui.
Ah bon, c'est particulier comme histoire, hein?
Particulier.
On a l'impression qu'il manque des éléments dans cette histoire-là.
Oui, mais okay. Écoute, on va faire notre détective et on va essayer d'en trouver plus.
Pika!
Oh là là!
Merci François. Mélina?
Oui, en fait, j'ai une petite bande-annonce pour vous parce qu'il y a un film qu'on a bien hâte de voir qui sort déjà bientôt le 21 juin, donc on écoute ça.
Qui veut partir en camping-car?
Moi! Hein? C'est vacances!
Tu veux un coup de main?
Non, ça va, je gère.
Je sais que ça peut vous paraître curieux, mais nous tous là, on doit faire bien attention qu'il ne lui arrive rien.
Woody!
Là, il lui arrive quelque chose.
Buzz, faut vite récupérer le fourchette!
Bien sûr.
C'est pas possible!
C'est la panique!
On change de programme.
Jesse, Bayon, Buzz, Bo, Rex, Monsieur Bo...
Rex, fais attention!
On va sauver une fourchette!
Est-ce que je dois m'inquiéter?
Non, non, mes gars sont des vétérans, ils tiendront le coup.
Me voilà, Woody!
Alors, ça percute, mais cette bande-annonce.
C'est ça, la bande-annonce, donc, l'histoire de Jouet 4. Avez-vous hâte?
Oui, vraiment, tout à fait.
Vraiment, le 3 était tellement bon que c'est... Voilà.
Hein? C'est des films, je pense, qui ont marqué notre enfance. Fait que ça sort vraiment bientôt, le 21 juin. Donc, mettez ça à votre agenda. Puis nous, on va sûrement faire une petite critique commune de ça.
En plus, ça arrive avec le solstice.
Ben voilà.
Bon, tout à fait. C'est merveilleux. Tout ça est dans mon calendrier. Le solstice, c'est merveilleux. Toy Story 4.
Voilà, merci Mélina. Julie?
Eh bien, pour ma part, on va parler de législation. Mais en fait, non. On va parler de Netflix, mais ça a un rapport avec la législation. Bon. En fait, menace l'État de Géorgie de cesser tout leur tournage si l'État va de l'avant avec les sanctions contre l'avortement.
Ben oui.
Donc, dans un communiqué au site Variety, le responsable du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a répondu « Nous employons de nombreuses femmes sur les productions en Géorgie, dont les droits, comme ceux de millions d'autres, subiront des restrictions sévères en raison de cette loi à suivre. »
Beaucoup de gens mécontents de cette législation, on va voir si ça aura du poids. Hein.
Si ça va passer.
Oui, c'est ça, en fait. Ouais. C'est questionnable.
Ouais, tout à fait.
Excellent. Bon, merci beaucoup. Et moi, je vais vous parler je vais vous parler d'Akira, en fait. Hein? Le célèbre manga de Katsuhiro Otomo. Tu as l'air d'une fan finie de ce manga slash film d'animation culte japonais qui date de 1988 et dont le film en prise de vue réelle sortira le 21 mai 2021.
Tellement longtemps qu'on en parle.
Oui, mais...
Bon. En tout cas,
alors, deux choses. Premièrement, le film sortirait, sous réserve parce que tout va changer, en même temps que la sortie du film John Wick 4, dont le troisième opus est au cinéma maintenant. Mm-hmm. Bon, ça risque de changer parce que c'est très loin et qu'on sait qu'Avatar lui-même s'est délayé de plusieurs années.
Oui, tout à fait.
Rien n'empêche donc Akira de faire la même chose.
Oui.
Dans tous les cas, le film sera réalisé par Taika Waititi, le Néo-Zélandais, je crois, qui avait réalisé le film Thor Ragnarok. Donc, un des films quand même importants de la dernière portion du MCU. Et on peut espérer que ce sera meilleur que l'adaptation de Netflix de l'excellente série et manga Death Note, qui était littéralement à gerber. C'est d'autant plus épeurant qu'on va tourner le film en Californie et que l'histoire se passera à New York au lieu de Tokyo. Donc,
non. Je m'excuse, déjà, j'ai un gros problème.
Ça va pas bien. Non, ça va pas bien, c'est ça. J'avoue que je suis un petit peu...
C'est Néo-Tokyo, là.
Je crois qu'on sait jamais, tout peut changer. Hein. Il y a Sonic qui va changer de couleur, tout est possible. Non, j'exagère.
Aladdin aussi, ça a l'air qu'il va être vert.
Oh my God.
Non, finalement, Aladdin n'a pas été bleu, finalement, je pense, de ce que j'ai compris. Oui.
Ah non, il est
peut-être
bleu,
à moitié
Aladdin.
Bleu. Non, mais dans le film, il me semble que j'ai encore vu des photos là où... on l'a pas vu encore. Ça paraît-tu, on l'a pas vu,
c'est le génie qui est bleu.
Le génie, oui, tu joues avec les mots, là.
Oui,
il joue avec les mots, là.
Je pense qu'il manque d'air, il est bleu.
Pour moi, Aladdin, ça sera tout le temps le génie, OK?
Non,
on s'en blague. Donc voilà, on verra pour ce qui va arriver du film Akira et Sonic également. Voilà, c'est tout pour ces nouvelles. Voici votre Cinébrunch. Et c'est le moment où Mélina va nous parler de son film.
Oui!
Je suis pas habitué avec ma nouvelle console.
C'est important qu'on veut la vie.
Ben oui, exactement. Ah, on t'entendait pas, François.
Je parlais fort. Je pense que j'ai une voix de théâtre, dans tous les micros ouverts de la planète.
C'est vrai, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ta réputation.
Oui, non, mais je suis une des raisons pourquoi la NSA essaie d'enlever des micros cachés, parce que je rentre dans trop de micros, ça fait du
bien. Je comprends.
Ils essaient d'écouter moins de monde.
Ah, c'est réussi. Donc, excellent. Oui, Mélina, tu nous parles donc du film Premier de classe.
Première de classe. Première de classe. J'ai retrouvé le nom en français, c'est ça le titre, en fait. Donc, c'est une comédie américaine, film d'ado, si on veut. Et dans le fond, comment ça se passe? On est la dernière journée d'école et on suit deux filles qui sont donc premières de classe. Donc, vous savez, la personne qui va donner le discours de fin d'année, qui est présidente de la de sa promotion. Exactement. Je sais pas c'est quoi le terme en français pour dire ça, mais on n'a pas de temps l'équivalent.
Ça n'existe même pas.
Non, c'est ça, hein, parce que pour eux, c'est vraiment une grosse chose, parce qu'un coup qu'ils finissent l'école secondaire, ils s'en vont directement à l'université. Nous, on a le cégep, fait qu'on dirait qu'on est comme... C'est peut-être... Mais on met peut-être moins l'accent, mais bref, le film se passe donc cette dernière journée de classe-là. Les deux filles qui sont premières de classe... Et dans le fond, dans leur école, il y a une politique où, elle ne où personne, en fait, ne dit dans quelle école, dans quelle université ils vont aller pour pas créer de, vous savez, pour pas rendre les gens mal à l'aise ou tout ça, pour pas créer de... C'est une nouvelle ère, hein, Jim?
C'est un peu particulier,
donc,
quand
même. Donc, ils disent pas pour pas, ben, pour pas que les autres soient envieux.
Tout le monde va se
pas.
Le dire, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Ben, tes amis, on leur dit pas où on
non, mais ben, c'est ça qui se passe. Mais c'est que la dernière journée, dans le fond, c'est deux filles-là qui prennent leurs études super au sérieux, apprennent que leurs compagnons de classe, qui ont fait quand même beaucoup la fête, on pourrait dire, réussissent à rentrer eux aussi dans les Ivy Leagues. Là. Donc, vous savez, ces universités très anciennes aux États-Unis qui ont du lierre sur les murs, là, sont très, très, très réputées. Bon, alors, elles se rendent compte que il suffit pas... Je veux dire, eux autres, elles ne font pas la fête, elles font toujours tout correctement. Donc, elles se rendent compte que finalement, peut-être qu'elles sont passées à côté de quelque chose et qu'elles auraient pu un peu faire la fête comme leurs collègues de classe.
C'est ça, plus relax.
Et c'est ça. Et quand même réussir à rentrer dans ces prestigieuses universités. Donc, elles décident de faire la fête, hein, la totale, pour le dernier soir. Et c'est donc ça, l'histoire du film. On va aller écouter un petit extrait de la bande-annonce maintenant.
Salut!
Oh shit!
Ouh! On va à l'école ou?
Non!
What's two plus two?
J'en reviens pas, c'est le dernier jour d'école!
Oh non, mais pour qui tu te prends, Samantha?
Va lui parler. Quand elle sourit, elle est vraiment cute.
Amy, sais-tu combien de filles vont te tâter le vagin l'an prochain? Chaque fois que je vais venir te voir, tu vas être en ciseaux avec une fille.
Dude, les ciseaux, c'est un mythe.
On crache pas sur ce qu'on connaît pas.
Dernière journée. On a survécu.
Faudrait qu'on parle du dernier budget, monsieur.
Pensez plus à ça. Vous allez à l'université. C'est cool, non?
On lâchera pas le morceau.
J'entends
rien. On va revenir.
Rien, il n'y a aucun bruit qui passe.
Ben voilà.
Ben voilà, la bande-annonce. Donc, première de classe. Ça l'a été... Et ça, c'est intéressant. Ça l'a été réalisé par Olivia Wilde. Je sais pas si c'est quand même une actrice assez connue. Qui a fait vraiment plusieurs films. Moi, je la connais parce qu'un de ses premiers rôles, c'était dans la série Newport Beach, donc dit aussi. Elle a joué là-dedans. Mais elle a fait plusieurs films. Elle a joué aussi dans Dr. House, vraiment beaucoup. Elle a joué dans Alien versus je sais pas quoi. Cowboy et Alien, non.
Ah,
oui.
Cowboy c'est et pas Alien. Pareil. Hein?
Non, non, c'est ça.
C'est pas le pareil, il y avait un chapeau.
C'est ça, il y avait un chapeau. Oui, oui, le chapeau de Cowboy. Bon, mais c'est ça. C'est elle qui a réalisé le film. C'est intéressant parce que c'est la première fois qu'elle réalise, mais elle a quand même été dans de grands films. Et je pense que c'est une des clés de la réussite de ce film-là, c'est que je pense que c'est très bien réalisé. Le scénario aussi est vraiment intéressant. Et c'est un scénario qui a été pour la première fois écrit en 2009, qui a été révisé, qui est ressorti, réapparu en 2014. Et là, on l'a retravaillé. Et là, donc, on a eu un film. Donc, c'est un scénario qui a 10 ans, en fait, mais qui est extrêmement au goût du jour. Et c'est ça qui rend ça extrêmement intéressant, c'est que l'histoire de là, 10 ans, dans le fond, elle a vraiment complètement changé. Ils ont réussi à s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Et de ce que j'ai lu en tant que réalisatrice, elle a vraiment laissé une bonne marge de manœuvre aux deux actrices principales en leur disant... En fait, elle les a fait vivre ensemble pendant 10 semaines parce qu'ils sont meilleurs amis dans le film, donc pour que ça transparaisse à l'écran, pour qu'ils apprennent à se connaître. Mm-hmm. Et elle leur a dit, bon, 100% ouverte, ils ont rajouté, ils ont réécrit les dialogues un coup qu'ils avaient trouvé les deux actrices. Donc on a vraiment, je pense, c'est vraiment toutes ces petites choses-là qui font en sorte que le film est aussi bon, mais c'est aussi extrêmement drôle. C'est absurde. Donc, on est dans la comédie pour adolescents absurde, avec l'humour absurde, mais intéressant et quand même intelligent. Et c'est ça qui est bien dans ce film-là. Mais vraiment beaucoup d'absurdité, mais pas trop... Comment je pourrais dire ça? C'est qu'il y a des films d'ados qui sont vraiment trop absurdes que tu te dis, bon, c'est juste con,
ouais,
genre.
Ouais, c'est ouais. Ça.
Mais là, c'est absurde, mais c'est pas absurde con, c'est juste absurde parce que les situations qu'ils provoquent sont absurdes, mais la réflexion derrière de ça est quand même intéressante. Et ça donne plusieurs situations qui sont vraiment drôles. Et les acteurs sont vraiment tous très bons. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, ben, je veux dire, bon, les deux actrices principales, c'est Caitlin Dever et Beanie Feldstein. Mais ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y a la fille de Carrie Fisher dans la vraie vie, là, sa fille dans la vraie vie, là, Billie Lord, qui a joué dans, dans les Star Wars et qu'on va voir dans le prochain épisode, qui joue aussi un rôle. Donc ça aussi est super bon. Ils sont tous super bons. C'est des personnages. On a des personnages qui sont assez typés, mais que ça garde le côté drôle. Je sais pas comment dire. C'est une bonne comédie. C'est vraiment une très bonne comédie d'ado. Moi, j'ai vraiment beaucoup... j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup aimé ça, ça riait dans la salle aussi. Même si, bon, malheureusement, je suis plus une adolescente, j'ai quand même ri, j'ai quand même... Je pense qu'on fait beaucoup de blagues avec la réalité aujourd'hui. Et je veux dire, ça se passe en Californie, donc ils ont ce côté-là encore un peu plus, comment dire, avant-garde, ou genre vraiment, ils essaient d'être tous respectueux l'un de l'autre. Fait qu'on prend ça, puis il y a un peu d'autodérision là-dedans, fait que ça rend ça super intéressant, super drôle. Fait que je pense que c'est vraiment, vraiment un bon film d'ado que même les personnes plus âgées, mettons comme moi, je suis plus une adolescente, peuvent aimer.
Pas une personne âgée non plus, là.
Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des films d'ado qui sont vraiment bons pour les ados.
Que pour les ados. Mais là, c'est quand même. Le ben spectre est un petit peu plus large.
Okay. Un peu comme quand on avait vu Charlotte a du fun. Moi, ça, on je avait me demandais trippé.
Jusqu'où ça. Par rapport à Charlotte a du fun ou Lady Bird, ou, ça se situe où? Parce que moi, j'avais, en regardant la bande-annonce, j'avoue que ça ne m'intéressait pas plus que ça. J'avais l'impression que c'était justement assez.
Non,
assez
parce
con,
que,
là.
Non, parce que non, c'est ça. C'est pas très con. Parce que. Oui, c'est con un peu, mais je veux dire, il y a des. Je veux pas nécessairement. Il y a des. Comment je dirais ça? À un moment donné, par exemple, ça, c'est commun, on retrouve ça tout le temps dans les films d'ados où les ados prennent, par inadvertance ou non, des drogues quelconques, genre. Et là...
Tu verras.
Non, mais ça arrive tout le temps dans les films d'ados et c'est tout le temps un moment absurde parce qu'on joue beaucoup avec ça, on peut faire n'importe quoi avec ça.
Tout à fait.
Et l'utilisation qu'ils en font dans ce film-là, je vais pas vous la dire c'est quoi parce que c'est vraiment... C'est excellent, genre c'est extrêmement drôle. Mais tu te dis, c'est complètement absurde, mais ça va ça, il y a tout le temps ça dans les films d'ados, mais celle-là qu'ils font, ce qu'ils font avec ça, ce qu'ils nous montrent, c'est vraiment excellent. Donc, on est beaucoup dans des choses comme ça. Et notamment, ce qui est intéressant, tu parlais de Lady Bird, mais l'actrice principale de Beanie Feldstein jouait la meilleure amie de Saoirse Ronan dans Lady Bird.
Okay, d'accord.
Tu savais, c'est ça, ils s'en allaient joindre le club de théâtre ensemble, finalement, ils n'étaient plus amis, ils revenaient. Donc, quand même des bonnes actrices qui savent qu'est-ce qu'elles font. Bon, c'est ça, comme je disais, c'est quand même un peu absurde, mais on se prend pas de temps au sérieux dans ce film-là, puis ça rend ça agréable, on rit bien, mais on réinvente, on réussit à réinventer. C'est ça qui est dur dans ces films-là. Je veux dire, il y en a eu plein, là, des American Pie, mais comment se réinventer, rester au goût du jour, aborder les nouveaux sujets, des trucs qu'on n'abordait pas, là, 10 ans dans les films d'ado. Je veux dire, aborder ces nouvelles réalités-là, les adolescents, même nous, on est beaucoup plus... je veux dire, toute la question de toutes les identités sexuelles, avant tout ça, n'était pas abordée dans les films d'ado, v'là 15 ans, parce que v'là 15 ans... C'était pas LGBTQ+, machin. Non, mais c'est ça, on aborde ça, on joue avec ça, on parle de ça, donc ça c'est ce qui met ça au goût du jour, au goût d'aujourd'hui, et on fait des blagues avec ça, donc, je veux dire, on fait pas des blagues sur ça, mais je veux dire, on sort de ça, puis c'est pour ça que je dis, c'est bien fait, c'est au goût du jour, mais je pense que c'est une comédie d'ado qui va quand même rester et marquer un peu, parce qu'il y a vraiment des trucs dans ce film-là qui sont vraiment... hallucinant, je dirais.
Hallucinant.
Avec
la drogue, c'est ça, tout à fait.
Oui, exactement.
On avait fait le lien.
T'es vif d'esprit, François.
Ben, tout à fait. Je suis tout là.
C'est pour ça que dans quelques instants, on va entendre parler de ta chronique.
Oui, mais avant, la note de Mélina.
Oui, c'est ce qu'on veut savoir.
Je donne un 9 sur 10 à ce film-là. Vraiment.
Quand même.
Je pense que vous pouvez, c'est sûr, vous pouvez avoir vraiment beaucoup de plaisir à aller voir ce film-là et quand même avoir des réflexions intéressantes en sortant de ça. Et rire beaucoup, et vraiment, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on rit beaucoup de choses qui sont quand même nouvelles à l'écran, fait que c'est rafraîchissant.
Fait que tu te mettras pas les créateurs ados? Ado. Ado.
François, tu pourrais quitter la pièce.
Oui, je sais. Tout à fait.
Donc, c'est ça le titre du film, hein? Booksmart, première de classe. Donc, allez voir ça, c'est vraiment très bon.
Merci, Mélina.
Thank you.
François, toi qui te plains toujours d'avoir pas assez de temps pour ta critique, ben tu as beaucoup de temps, François.
Ben c'est bien, parce que ça va être très divertissant.
Bon,
ben,
j'ai bien hâte de voir, parce que tu as été voir une comédie française. Oui. Tu sais que je suis friand de ce genre d'objet. Oui.
Donc, tout à fait. Voilà. J'ai hâte de voir ta réaction. Non, mais oui. on est dans les comédies aujourd'hui. Hein? On est beaucoup dans les comédies.
Effectivement.
Donc, ça s'appelle « Tout ce qui me reste de la Révolution ». Mais quand tu le prononces bien, ça a l'air d'être un vrai titre de film. Et donc, dans le fond, c'est réalisé par Judith Davis. Ça met en vedette Malik Zidi, Claire Dumas, Mélanie Bestel, Simon Bakouche, Nadir Legrand. Pour les fans de District 31, c'est proche. comprendront la référence.
Ah, c'est très drôle.
Et donc, dans le fond, ça raconte quoi, ce film-là? C'est une très bonne question, ça, Jim. Oui. Ça raconte l'histoire d'Angèle. Angèle qui vient d'une famille de militants, mais sa mère a abandonné le combat politique pour déménager seule en campagne. Et sa sœur a choisi de vivre le monde de l'entreprise à fond et de quitter un petit peu son combat politique, elle aussi. Donc, son père est là, il reste fidèle à ses idéaux, mais est un petit peu seul chez lui. Et là, elle est en colère et elle est déterminée à essayer de changer le monde et fuir aussi ses rencontres amoureuses. Que va-t-il se passer dans ce film? C'est ce qu'on se demande tous et on va écouter la bande-annonce.
C'est vrai que vous avez pas de chance.
Ça! Tu as adopté le style de la maison? Hein? Je retourne ma veste! Et voilà!
Angèle, on se détend là.
Virée du jour au lendemain par des patrons de gauche, ça s'appelle des raisons concrètes d'être en colère. Je suis pas en train de faire une déprime parce que j'ai pas mis d'après-shampoing.
Monsieur, la dame, elle a fait un zizi sur la banque.
En fait, c'est plutôt un doigt d'honneur qu'un zizi. De toute façon, c'est à peu près la même idée générale, enfin, les doigts, les zizi.
Tu sais que ça va être l'anniversaire de maman? Je crois qu'elle aimerait te voir.
Et? Ma mère, elle a abandonné son combat politique. Elle est partie du jour au lendemain, elle a trahi, elle a tout quitté.
Ta mère, elle a peut-être juste ouvert les yeux. Réaliser que le monde était absurde, que la vie était absurde.
Pourquoi on vit comme on vit? Pourquoi on fait certains choix?
Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais tu grandis un peu, Angèle?
C'est dingue, on peut plus la poser la question du pourquoi.
Eh ben non, on peut plus la poser.
Et pourquoi?
Et voilà. Ça, c'est un très bon gag.
Vraiment, vraiment, oui.
Tout à fait. Alors, on se demande pourquoi ce film, tout à fait. Oui. Et c'est une très bonne question. Non, mais en fait, Judith Davis, c'est elle, a fait partie de la distribution. C'est elle qui joue le rôle principal et c'est elle aussi qui réalise dans ce film-là, qui a réalisé ce film-là. Et en fait, parce que c'était un personnage qui était beaucoup trop proche d'elle, donc tout le monde s'est dit, finalement, c'est toi qui dois jouer ce rôle-là, parce qu'il n'y a personne qui va être capable d'incarner ce rôle-là mieux que toi. C'est assez proche d'elle, donc, quand même, ce rôle-là. En fait, je veux essayer d'aller un petit peu rapidement dans les origines de ce film-là, parce que c'est intéressant ce qui se passe derrière ça, comment on est arrivé à ce film-là. En fait, tout ça part d'un collectif de théâtre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que eux autres se sont mis ensemble. Elle n'était pas dans le monde du théâtre puis du cinéma, puis elle a commencé à faire du théâtre. Puis à cause de ses opinions politiques, justement, elle voulait se parler là-dessus puis se prononcer au niveau politique. Et elle a donc décidé d'écrire et d'aller dans un collectif. Et devine qui était dans le collectif? Claire Dumas, Mélanie Bestel, Simon Bakouche, Nadir Legrand. C'est toutes des gens qui sont dans la distribution de ce film-là. Donc,
C'est vrai?
Oui, exactement. C'est ça qui est intéressant parce que c'est un collectif qui ont fait depuis... En 2008, ils ont fait une pièce qui s'appelle « Tout ce qu'il me reste de la Révolution, c'est Simon ». Ils ont fait ça qui a tourné en France assez longtemps. Et ils ont donc fait des pièces de théâtre ensemble, comme un collectif. Ils ont écrit ça ensemble. Et là, maintenant, ce film-là part de ce collectif-là, justement, où ils ont décidé de mettre en image un peu. C'est pas exactement la même chose que la pièce de théâtre, mais ça rassemble des idées un peu qu'ils ont écrites dans leurs différentes pièces de théâtre pour mettre ça en image. Donc ça, je trouvais ça quand même intéressant de mentionner ça. On le voit quand même dans les images parce qu'ils se connaissent bien, les acteurs, puis tu sens qu'ils ont du fun à jouer ensemble. Mm-hmm. Puis ça
transperce l'écran.
Ça transperce l'écran,
ouais,
tout à fait. Ouais. Oui, ça fait des dommages pour le cinéma, mais c'est intéressant à regarder. Et c'est une super belle comédie, pour vrai. On rit, c'est le fun. Nous autres, ils vendent ça aussi comme une comédie romantique. Oui, il y a un petit peu de romantique aussi dedans. C'est peut-être pas nécessairement la comédie romantique classique. Mais il y a aussi un petit côté comédique intéressant aussi là-dedans. La fin est quand même assez dramatique. Tu sais, le début du film est assez comique. À un moment donné, ça devient assez dramatique. Donc, on switch de bord assez vite. Il faut être prêt à pas juste rire. On rit quand même assez beaucoup au début. Donc, on s'attend à finir tout le film en humour. Et des fois, il arrive avec une teinte un petit peu plus dramatique.
C'est très français, ça.
Oui, c'est ça.
Vous promenez entre le...
Oui,
c'est rire les larmes.
Exactement, ouais. Tout à fait. Toujours sur le bout de notre siège et de nos boîtes de Kleenex. Non, mais exactement, c'est une allusion un peu bizarre, mais...
Ça, c'est le film de Abelid Kechiche, là, dont tu parles. Ça n'a pas de lien. Là.
Et là, là, les gens vont pouvoir googler tout ceci et comprendre la référence.
Oui, non, j'espère que non.
Alors, oui, donc, c'est pas nécessairement pour tout le monde, parce qu'on parle quand même de politique, c'est sûr. T'sais, le but premier de ça, c'était de parler de politique, c'était d'arriver avec des nouvelles idées. Eux autres, pour les gens qui connaissent un peu l'histoire française, eux autres, ils voulaient pas juste parler de mai 68, parce que souvent, quand on parle de trucs comme ça, on parle souvent de mai 68, ça, c'est la révolution, il y a eu des grèves étudiantes, grèves ouvrières.
Du printemps érable, mais
ouais,
il y a quelques
années. C'est ça, tu sais, puis là, c'est un peu drôle parce que présentement, il y a les gilets jaunes.
Oui, 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 oui.
Fait qu'on s'entend qu'il y a aussi une petite révolte aussi qui arrive là. Mm-hmm. Donc, ça tombe à un bon moment aussi en France. Ça revient un peu au goût du jour. Mais donc, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là, d'essayer de regarder, oui, au niveau politique, mais d'essayer d'amener des nouvelles idées un peu, d'essayer de voir ça d'une autre côté. Pas juste d'un côté tout le temps un peu plate. T'sais. Des fois, la politique souvent est vu d'une façon dramatique, c'est très très factuel, mais là c'est le fun, ils sont là puis ils se créent des rencontres dans le film, de gens qui parlent de politique puis qui essayent d'offrir leurs idées, puis ils sont vraiment comme des gens comme nous qui disent de quoi, puis comme non mais ça par rapport à ce que tu viens de dire, puis comme non mais j'ai pas d'opinion là-dessus. Fait que c'est vraiment le fun de voir vraiment comme des gens comme normaux entre guillemets parler de politique, puis on se retrouve vraiment puis on se reconnaît vraiment dans ces personnages-là. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Pour vrai, c'est intéressant, puis c'est ça, c'est une belle comédie pour ça. Donc on est capable de parler de sujets lourds mais de façon assez... oui, exactement, tout à fait. Du moins au début du film. Après ça, ça prend une petite chire.
Ouais,
mais
ouais.
Donc, c'est ça, comédie dramatique, romantique. C'est un mix entre plein de trucs. Puis c'est ça, je pense, qui fait la beauté de ce film-là, tu sais, au final. Parce que c'est pas juste une affaire que tu mets une étiquette dessus. Ouais. C'est... ça te... Tu vois la transformation du film à travers les minutes qui passent, tel un papillon qui éclot de son cocon. Non, mais j'avais même pas écrit ça, tu comprends? C'est ça, ça me surprend à tous les jours.
Quel poète, François.
Je sais, je me lève le matin et je sais pas ce que je vais dire le soir.
Voilà.
Mais donc, c'est ça. Donc,
même le soir, je suis pas sûr que tu es au courant des fois.
Non, mais... exactement.
Surtout le soir.
Mais dis-moi, François, oui. tu nous as pas donné ta note? Tu nous as pas donné...
Non, tout à fait. Non, je donne un beau 8. 8 sur 10, okay. Tout à fait. Je donne un beau 8 sur 10. C'est un film intéressant. C'est sûr que si vous aimez 0-0-0 la politique, c'est peut-être pas le film à voir, parce qu'il y a quand même des trucs, des référents.
Vous êtes mis d'aller voir un bon coup dans ce cas-là.
Oh oui, exactement. Belle référence aux épisodes passés que vous pouvez rattraper.
Ah oui, tout est sur le site web. Oui,
exactement. C'est un très beau lien, ce Jim. Donc, allez voir ça. C'est un film intéressant. Une belle comédie pour rire et un peu pleurer.
Bon. Merci François, c'était fort pertinent. C'est le fun, deux comédies françaises dans la même journée.
Mais je sais pas pourquoi t'étais surpris quand t'as dit fort pertinent. T'as l'air surpris.
Non, pas tout à fait.
C'est pas que les attentes étaient pas hautes, mais...
J'irais pas si loin.
Non, mais en fait, on a trois comédies aujourd'hui. Là,
oui,
on a
dont deux françaises.
Oui, c'est vrai.
C'est juste moi, là, qui...
C'est ça?
Ouais, c'est vrai, ouais, dark comédie. Mood,
c'est pas grave, ça va être agréable.
Vous cassez ça.
Merci beaucoup, François.
Plaisir.
De retour à votre Ciné Brunch, et aujourd'hui, on aura la chance, dans une cinquaine de minutes, de s'entretenir. Moi, j'aime ça, inventer des mots, c'est ça.
Oui,
c'est...
tu te comprends. Je te comprends, c'est le fun d'inventer des mots.
Oui, c'est ce que je me dis. Et dans le fond, pourquoi je vous dis ça? Parce que, c'est ça, dans cinq minutes, hein, comme je disais, avant que vous m'interrompiez rudement.
Une cinquaine de minutes?
Et moi, vous savez, j'ai aucune concentration, donc il ne faut pas m'interrompre. Donc, Julie va nous parler, va faire la suite de son blog sur les films de super-héros, et cette semaine, elle va nous parler de l'univers de DC, plus précisément de Batman, les versions de Dark Knight. Donc, de la musique en perspective avec, tout ce qui va avec. Mais là, hein, je ne veux pas trop dévoiler ce qui va se passer plus tard, parce que d'abord, je vais vous parler du film Jusqu'ici, tout va bien, une comédie dramatique française. Il n'y a pas grand drame, honnêtement, là-dedans. C'est plus une comédie, tant qu'à moi, de Mohamed Hamidi, celui qui nous avait donné le film La Vache. Le film met en vedette Gilles Lellouche, le réalisateur des Infidèles et du Grand Bain, mais qui est ici seulement en tant qu'acteur. Malik Bentalha, en tout cas, ça. Sabrina Ouazani et quelques autres. Alors voilà, on écoute la bande-annonce.
On déménage. Moi, j'étais sur le bout du monde. À la Courneuve.
Ah oui, quand même.
27% de chômage des jeunes, une incivilité toutes les 20 minutes.
Fred m'a demandé de vous donner quelques conseils sur le quartier.
C'est une fille, vous plaît. Vous pouvez faire ce son-là. Viens voir.
Et pour le recrutement, vous devez avoir au moins 4 nouvelles recrues dans la zone franche.
Ouais, j'ai besoin de monde, là. Mais non, pas pour une bagarre, pour du travail.
Mais c'est l'autre, son associé, là. Il faisait genre, j'avais pété des queues trues alors que j'avais rien fait, moi. C'est pas WAM.
Ok, c'est bon. Mmh. Ah oui. Merci.
Samira Bellarbi, c'est pas où?
Non, non, c'est ma femme.
Elle a pas pu venir, c'est ça?
Si, mais moi, je viens d'abord, comme ça, je regarde si tout va bien, tout ça.
C'est elle qui va venir travailler, c'est pas vous?
Bah oui, bien sûr, on est ouvert quand même.
On a un petit souci avec la banque. Ils veulent pas nous suivre.
Mais c'est pas un petit souci, ça?
Ah oui, oui, c'est très, très grave.
Truc de ouf! Donc voilà, c'était la bande-annonce du film Jusqu'ici, tout va bien. Et
mais jusqu'ici, tout allait bien avec la bande-annonce.
Ben, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Tu m'as enlevé précisément ce que j'avais écrit.
C'est vrai?
Donc, oui, oui.
Comme on est connecté.
Ben voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, jusqu'ici, tout allait bien. On apprend à connaître l'univers des employés de l'agence de communication parisienne Happy Few, en pleine expansion, alors que malheureusement, les gens du fisc débarquent et menacent la survie de la boîte pour une histoire de fraude un petit peu détournée. La seule solution pour le patron Fred, c'est de déménager sa boîte à Courneuve, en fait à La Courneuve, donc en banlieue de Paris, évidemment, c'est le monde de la cité, avec le crime, le vol, la peur qui vient avec ça, le verlan. Et donc, c'était... c'est ça. Vous avez écouté la bande-annonce, et dans cette bande-annonce, vous avez entendu des gens parler... voilà, un peu...
Des gens parler, tout à fait.
Des gens parler, voilà. Oui. Et voilà, c'est ça. Alors, voilà, c'est tout.
Non. Ouais,
c'est
bon,
excellent. C'est très pertinent.
Tout à fait.
Merci, merci. Oui, oui, non. Donc, jusque-là, tout allait bien, hein? Avec le film, jusque-là, tout va bien. Mais au niveau du scénario, bon, écoutez, on ne réinvente pas la roue avec ce film-là. On est dans le traditionnel film français. On apprend, on prend des choses pour acquis, qui n'ont pas nécessairement de sens. On se permet des tournures, des licences poétiques pour faire des actions qui ont une queue ni tête. C'est souvent très bien. Dans ce cas-ci, je trouve qu'honnêtement, on a un petit peu tourné les coins ronds. Là, on est allé dans le limite burlesque là, sur les décisions qui sont prises, qui clashent un petit peu, à mon goût, avec le style de l'histoire du film, qui se veut une histoire un peu moderne. Donc, mais sinon, alors on est quand même... si vous aimez la comédie française, si vous aimez rire, profiter du bon temps, pas trop vous casser la tête, ben vous allez apprécier, parce que les personnages sont super attachants. Il y a des moments extrêmement drôles. Je dois avouer que j'ai ri là, comme en masse dans ce film-là, tout à fait. Maintenant, bon... ça casse pas des briques non plus. Donc, c'est un divertissement, purement. On n'apprend rien dans ce film-là. Ça n'a pas du tout le charisme d'un film comme Bienvenue chez les Ch'tis ou Les Intouchables, qui pourtant jouait dans le même genre de thématique, là, avec une histoire cute, une bride de tabou, une prise de conscience du personnage principal. Bon, on est dans le truc. J'ai franchement pas grand-chose à dire sur ce film-là. Hein. Je me dépasse totalement. Non.
Mais j'ai l'impression que tu as quand même aimé ça.
Ben, j'apprécie pendant, mais c'était un peu cheap. Donc, j'ai apprécié.
Mais c'est pas un film qui dure, que tu dis « Ah, c'était vraiment
non.
bon! »
Non. J'ai passé un beau moment, les personnages étaient drôles, il y a des gags vraiment drôles. Je le reverrais, bon, si j'avais la télé, ou que je regardais la télé, et que ça passait à la télé, probablement que je regarderais distraitement, parce que c'était pas désagréable à voir non plus. Sauf que cinématographiquement parlant, c'est pas « wow! »
C'est comme une figurine d'action
c'est
du
bijou,
Dolorama.
Les détails sont pas tout à fait aussi beaux que les Matchbox.
Mais ça a diverti quand même pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'il y ait un bras lâche.
Oui, exactement. J'aime ton analogie,
oui, ça
François.
Ça sent le vécu un peu.
Ça sent le vécu, on dirait que tu parles de ton enfance. Là.
Oui, non. Ouais. C'est une enfance.
C'est bien passé, toi, avec les figurines.
Articulé.
Articulé.
Oui, c'est articulé. Ça fait les bras articulés.
Voilà.
C'est la articulée.
C'est très plastique. Hein.
Oui.
Très plastique. Oui.
Tout à fait.
Merci.
Tout ça fond à vue d'œil.
Donc, voilà, malgré tout, je lui donne un 7,5 sur 10. Okay. Donc, au film, jusqu'ici, ça va bien. C'est pas mauvais. C'est juste. Ok, encore.
Mais tant qu'à ça, les voir, mon film, il était vraiment bon.
Mon goût. As-tu des parts dans la compagnie?
Non, je peux pas dire que je l'ai autant aimé que tu as aimé ton film, malheureusement, mais quoi qu'il en soit, c'est ça. C'est un divertissement intéressant. Je pense pas qu'il soit là pour très longtemps encore au cinéma, honnêtement. Bon, C'est ça. Puis je pense pas qu'il ait été très bien reçu non plus. C'est correct, là, mais c'est, ça va pas plus loin.
Pourtant, la bande-annonce était bonne. Donc vraiment, jusque-là, tout allait bien.
Les gags sont bons. Les gags sont très bons. C'est juste que, bon, il se passe des choses que, OK, là, c'est, on n'est plus dans les années 90 ou début 2000. Fait que je trouve qu'on commence à avoir fait le tour un peu de cette façon de faire des films-là, qui est un petit peu désuète à mon goût. Ouais. Mais voilà, c'est tout.
C'est intéressant, ça.
C'était pas mauvais non plus. Donc voilà, 7,5 sur 10. Et c'est tout pour cette critique dans quelques instants. On s'entretient avec Julie qui nous parle de la musique de film de super-héros. Et en voici justement un extrait.
On est dans l'atmosphère.
Oui. Salut Julie.
La dernière fois, bonjour.
La dernière fois, tu nous as parlé des films Marvel.
On parlait d'Iron Man 3, oui. Puis on avait dit qu'on irait plus dans le côté sombre des super-héros. Puis j'ai décidé de parler de Dark Knight, donc le deuxième opus de la série de Batman de Christopher Nolan.
Oui.
Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est justement la chanson. Ben, la chanson. La pièce, oui. I'm Not a Hero. Et ce qu'on entend, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous connaissiez le thème de Batman qu'il y avait dans le premier film, donc Batman
le
Begins.
Le vieux film, là? Ah non, non,
Batman Begins de Christopher Nolan. C'est vraiment juste les deux notes, là. Puis on brode autour de ça. Mm-hmm. Là, rendu dans le deuxième, on met de la chair autour de l'os, donc ça s'étoffe. Puis dans le troisième, donc, The Dark Knight
Rises, oui.
Bien sûr. Dans celui-là, on passe complètement à d'autres choses. Ça devient super éthéré, les deux notes. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la première, dans l'épisode dont on va parler aujourd'hui, le thème du Joker, c'est aussi deux notes. Mais au lieu d'être deux notes qui montent, ce sont deux notes qui descendent.
Quand j'aime
ça, il y a une analyse, il y a une thématique là, malveillante derrière ça.
Oui, c'est ça. Mais bref, même les thèmes des super-héros et des gentils sont quand même assez dark dans le Dark Knight qui porte très bien son nom. Alors, donc, qui a composé la musique? Est-ce qu'il y a des gens qui le savent autour de la table?
Hans Zimmer.
On et...
va à hands levé. Non, et qui? Non, mais je sais pas. Mon
James goût. Newton Howard.
Oh.
Donc, ils ont composé ensemble en collaboration pour le premier et le deuxième des films de Batman de Christopher Nolan. Puis, Hans Zimmer a continué pour le troisième seul. Et d'ailleurs... James Newton Howard, qui a été interviewé sur la chose, disait qu'en fait, il pensait qu'il avait apporté tout ce qu'il avait apporté comme contribution. Il avait l'impression que c'était vraiment plus l'œuvre de Hans Zimmer, quoique sa contribution était quand même importante, mais que la conception, pas juste la conception, la manière d'envisager le film puis de traduire la musique, donc c'était vraiment plus Hans Zimmer, puis donc il a voulu se retirer pour laisser Hans Zimmer faire
la place.
Le troisième. Bon. Ouais, c'est ça.
OK.
Alors, qu'est-ce qui est important dans The Dark Knight? C'est le Joker, qui est vraiment le méchant par excellence. Il est vraiment très, très
méchant.
Très méchant. Mais en fait, il est très impressionnant. Et on se rappelle tout ce que Heath Ledger s'est suicidé avant la sortie du film, si je ne me trompe pas. Mais après, évidemment.
Après le tournage. Ouais.
Mais donc, c'est ça. Puis il y a eu beaucoup de débats là, à savoir si c'était le fait d'avoir joué ce personnage-là qui l'avait. Mais qu'il l'avait en tout cas amené sur un côté vraiment sombre. Bon, il souffrait déjà de dépression, je pense. Mais c'est quand on regarde la performance, on voit à quel point, justement, il est allé travailler son personnage, justement, aller chercher la folie, le côté chaotique. Et c'est ce qu'on entend dans la musique. Donc, on va justement écouter un extrait de « Why So Serious ».
C'est particulier, ça.
On sent vraiment la montée de la folie, on dirait, avec les violons.
On sait que ça ne sera pas une comédie, là. C'est ça.
Très contemporain aussi, comme style.
Ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est extrêmement dérangeant. Puis c'est justement, le côté, on est inconfortable, on écoute ça, on est comme, c'est difficile à écouter.
Comme le film,
c'est finalement. C'est strident, c'est vraiment... cette pièce-là, elle a été écrite par Hans Zimmer, parce que Hans Zimmer et James Newton Howard, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont collaboré ensemble, mais ils se sont comme donné chacun des thèmes. Un fait une pièce, un fait une autre pièce, puis finalement, après ça, ils collaborent ensemble. Donc, c'est l'œuvre de Hans Zimmer, qui a utilisé, on dit, plusieurs techniques, en fait, comme par exemple, utiliser des lames de rasoir pour jouer sur les instruments à cordes, ce qui donne des sons vraiment particuliers. On a utilisé un violoncelle électrique, des violons, guitare et une section de cordes pour faire cette pièce-là. Donc, c'est vraiment, ça s'entend, toutes les différentes utilisations des instruments à cordes. C'est vraiment intéressant.
Les lames à rasoir, j'imagine que...
Oui, j'imagine qu'ils ont utilisé sur les cordes en métal et non sur celles en nylon. Ça donne un résultat, donc une pièce intense, pleine de suspense, lourde, énervante. Puis ça rejoint très bien la psychologie du Joker. Donc, dans ce film, Batman, qui traque le Joker, évidemment, fait équipe avec le procureur Harvey Dent, qui est le chum de la belle Rachel. Alors, on se rappelle dans le premier tome que Rachel lui dit... tant que que la ville aura besoin de Batman, fais tes affaires, puis on se retrouvera un jour. Mais finalement, elle sort avec Harvey Dent. Donc, Batman, lui, il trouve que Harvey Dent, c'est vraiment une personne droite, une personne fiable. C'est peut-être le héros, finalement, que Gotham attendait. Il aimerait bien accrocher sa cape, en fait, pour lui permettre de prendre le flambeau et de protéger Gotham. Le thème de Harvey Dent, c'est James Newton Howard qui l'a fait. Et puis, il reflète bien la sensibilité, la dualité du personnage. On sent que faire régner la justice avec lui, c'est une lourde tâche, mais c'est quand même triomphant. Donc, on va écouter un extrait. Donc,
très rythmé encore.
Très différent de la pièce du Joker, évidemment.
Oui.
Et de l'extrait qu'on avait entendu pour Batman aussi. Mais on sent quand même une espèce de grandeur hein, quand on écoute ça. Donc, c'est vraiment...
Mais avec les percussions aussi, je trouve que ça appuie vraiment bien le rythme. Et ça donne cette sensation-là de, comme tu disais, là, de droiture. Et de...
Puis ce qui est intéressant, justement, c'est que si on fait la continuité entre les pièces de Why So Serious puis de celle qu'on vient d'entendre de Harvey Two-Face, c'est qu'il y avait les petites percussions aussi dans Why So Serious, justement, quand je disais les archets, mais c'était pas les grosses percussions des tambours, mais juste avec les archets, la rythmique, ça se continue dans les autres pièces, ce qui est vraiment intéressant. Donc, là, Joker, évidemment, va réussir à introduire quand même beaucoup d'anarchie, comme le dit le titre « Introduce a little anarchy », malgré les efforts de Batman pour tenter de sauver la situation. Donc, on a un bel exemple de thème mélangé qui expose toute la tension qui est imposée par les situations qui sont vécues par les personnages. On écoute un extrait. Donc, un mélange, on voit vraiment bien comment ça devient interrelié, tout ça. Mm-hmm. Et évidemment, il y a un film, il y a beaucoup d'action, hein?
Mm-hmm. Oui,
plusieurs poursuites, il y a plusieurs breakdowns, il y a plusieurs... Puis le Joker, c'est tout un personnage parce qu'il nous fait pas juste un mauvais coup pendant le film, il en fait vraiment plusieurs. Et en fait... c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que malgré tous les coups qu'il réussit à faire, le Batman essaie toujours de le rattraper avec ses acolytes, ses comparses. Donc, évidemment, Monsieur Gordon de la police. Et donc, Harvey Dent. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Joker est toujours un pas d'avance sur eux. Hein? Peu importe qu'est-ce qui se passe, on l'attrape. Ah, finalement, non, c'était prévu qu'il se fasse attraper. Bref. Donc, beaucoup de poursuites et ça donne beaucoup de beaux exemples dans la trame sonore, comme on vient d'entendre, où est-ce que ça se construit l'attente, ça se construit justement jusqu'à une explosion ou une finale. On voit ça beaucoup dans cette trame sonore-là. Donc... la bataille, ça va pas sans perte tragique, Donc, on va entendre une pièce qui est presque une marche funèbre. C'est vraiment triste, c'est éploré. Donc, c'est la fin pathétique d'un héros. C'est le temps des regrets, c'est le temps des choix difficiles. Watch the world burn. Ça, c'est vraiment un moment où les héros vont être confrontés, justement, quand je parlais de choix difficiles, c'est de faire face à est-ce qu'on est capable d'enfreindre nos propres règles? Est-ce que c'est correct qu'on le fasse? Vers quoi on se dirige comme univers? Est-ce que les gentils vont réussir à survivre finalement face à la folie du Joker? On y va. Oui, alors vraiment le côté marche funèbre.
Hein? Oui, définitivement.
Oui, donc c'est très lourd, c'est très triste. Le Joker, c'est le personnage central dans ce film-là. Évidemment, Harvey Dent a quand même un parcours intéressant et important, mais le Joker, c'est vraiment lui qui supporte le film. Et puis, il va pousser Batman dans ses derniers retranchements, justement, le pousser à briser ses propres règles, va pousser Harvey Dent du côté des méchants, ou en tout cas, il va le pousser à utiliser son sous-chanceux, son dollar chanceux peut-être pour les mauvaises raisons, dans les situations les plus risquées, je dirais, en faisant vraiment fi de la morale et de toutes les conséquences qui pourraient s'en suivre. À la chute des héros, donc on réalise qu'il n'y a pas de victoire possible réelle contre le chaos. Le prochain extrait, il nous fait ressentir vraiment la douleur de la perte puis les lendemains sombres qui sont vécus, parce qu'évidemment, il y a plusieurs chutes dans le film avant d'aller à la fin. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on constate en écoutant tous ces extraits-là? Ce qu'on constate, c'est que c'est une trame sonore qui est extrêmement variée. Mm-hmm. On y va vraiment du côté plus lyrique au côté vraiment rythmique, au le côté justement de la folie qui est très bien exploité avec les cordes et les différents thèmes qui se recoupent les uns les autres. C'est vraiment très intéressant. C'est super le fun à écouter. Donc, par la variété, mais aussi par la technique qui est utilisée dans la musique. On a aussi une belle utilisation, comme on avait dans Iron Man, du côté orchestral et du remote control, donc du côté électronique de la musique qui est utilisée aussi. Fait intéressant, la trame sonore a remporté le Grammy Awards pour le prix de la meilleure composition originale en 2009. Et également le Saturn Award de la meilleure musique pour The Dark Knight dans Académie des films de science-fiction fantastique et horreur. Par contre, ils n'ont pas remporté d'Oscar. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, en fait, disqualifiés parce qu'il y avait trop de compositeurs, parce qu'ils ont composé ensemble, les deux compositeurs ensemble qu'on a déjà mentionné, mais il y avait également Mel Wesson, Lorne Balfe et Alex Gibson qui ont travaillé à la trame sonore. Puis le comité donc des Oscars a dit « ça fait trop de monde, ça fonctionne pas ». Bon.
Trop de trophées à imprimer.
En fait, ça a soulevé la question de combien de personnes on peut mettre pour la trame sonore. Mais c'est ça. Donc, ils ont été écartés de la liste des nominés pour cette raison.
Eh bien,
polémique quand tu nous tiens.
Il y en a des choses à dire sur ça, c'est incroyable.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Julie Desmarais. C'est fort intéressant, encore une fois. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves pour le...
C'est une surprise!
C'est une surprise! Merci beaucoup, Julie Desmarais, qui nous parlait évidemment de la musique de films de Batman, Dark Knight et compagnie. Et voilà, c'est tout pour Cinébrunch cette semaine. Merci Mélina, merci François, merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent chaque semaine. Mon nom est Jim Boulay. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h en rediffusion le mardi à la même heure ou sur notre site web cinébrunch.com ou en balado sur votre téléphone intelligent via votre application Google Play Music ou iTunes ou peu importe. Alors voilà, merci à tous, à la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Bye bye. Bonne semaine.